France Info.
France Info. Simon Le Baron qui nous a rejoint en studio pour l'Hyper Revue de Presse. Bonjour Simon.
Bonjour.
À quoi ressemblera le monde de demain? On en a un petit aperçu dans Le Parisien aujourd'hui en France qui nous dévoile les projets de Google.
Le patron de Google X donne une interview exclusive au journal. Rien qu'en entendant son nom, on est déjà dans le futur. Il s'appelle Astro Teller, ça me fait penser moi à un personnage de Star Trek ou Astro le petit robot par exemple. Alors Astro, je précise quand même que ce n'est pas son vrai prénom, il s'appelle Eric en vrai, mais Astro c'est vachement classe, quoique Eric c'est très bien aussi. Bref, Astro Teller est le directeur de la branche dédiée aux projets innovants au sein de Google, Google X, donc un labo bien mystérieux. On sait juste qu'il se trouve sur la côte ouest des États-Unis. C'est là qu'est développé notamment le projet phare du géant américain du net, des drones pour livrer les marchandises en quelques minutes. Nom de code, Wing. Wing, ça veut dire L en anglais, L-A-I-L-E. Astro Teller nous décrit donc l'appareil ce matin dans Le Parisien. Imaginez un grand triangle muni de 4 propulseurs mobiles. Il décolle à la verticale comme un hélicoptère, puis ses moteurs s'inclinent et il vole comme un avion. Une fois arrivé à destination, chez nous, il livre ses marchandises dans une boîte au bout d'un câble, tandis qu'il reste en l'air. Alors moi, personnellement, j'ai encore un peu de mal à imaginer mon colis tomber du ciel. Pourtant, Google X vient de tester son prototype pendant 2 semaines dans la campagne australienne. C'est donc bien réel.
Il fait comment pour nous prévenir? Il appuie sur la sonnette?
Je sais pas, il nous passe un coup de fil peut-être, ce drone. Quoi qu'il n'a pas de bras.
Non,
mais il
n'a
pas de bras, donc pour appuyer sur la sonnette, ça va être difficile.
Bon
en tout cas, Google espère pouvoir faire des essais grandeur nature de ce drone d'ici 2 ans. Et l'entreprise américaine n'est pas la seule, puisque Amazon, le géant du commerce en ligne, dit vouloir de son côté livrer des colis par drone à ses clients avant 2020.
Et Le Parisien aujourd'hui en France évoque aussi les autres projets fous de Google.
Je vous les donne en vrac. Une voiture sans conducteur, ce projet est déjà bien avancé d'ailleurs. Des lunettes à réalité augmentée, équipées d'une connexion internet, d'une caméra et d'un micro, on se croirait dans un film de science-fiction, mais ces lunettes intéressent en particulier le secteur médical. Google travaille également à des lentilles de contact pour informer en permanence les diabétiques sur leur taux de glucose, ou encore des ballons aériens pour permettre aux habitants des zones les plus reculées de la planète d'avoir accès à Internet. Bref, Google est déjà omniprésent dans nos vies. La multinationale rêve de changer notre quotidien.
À quelques jours de la rentrée, vous nous parlez ce matin du redoublement. Beaucoup d'élèves redoublent au moins une classe dans leur scolarité. Mais c'est peut-être bientôt la fin de cette pratique.
Pourquoi l'éducation nationale veut en finir avec le redoublement, nous explique ce matin le Figaro. Il y a 25 ans, près d'un élève sur deux redoublait. D'après le quotidien, ils sont près de 30% aujourd'hui. Pourtant, le redoublement coûte du temps, de l'argent et il affecte la confiance en soi jusqu'à l'âge adulte. Voilà ce que souligne une étude du Conseil national d'évaluation des programmes publiée aujourd'hui. Alors ce n'est pas nouveau, cela fait des années que gauche et droite s'accordent sur les effets néfastes du redoublement. Il est injuste, il est inefficace et en plus il coûte près de 2 milliards d'euros par an. Le ministère de l'Éducation veut donc rendre le redoublement exceptionnel. Cela pourrait être le cas dès la rentrée 2015. Encore faut-il savoir par quoi le remplacer. Le Figaro est donc allé voir ce qui se fait chez nos voisins. Et bien dans quasiment toute l'Europe, des examens de rattrapage sont proposés aux élèves qui risquent de redoubler. Plus largement, dans la plupart des pays, des programmes spécifiques et ciblés sont mis en place pour les élèves en difficulté.
Sur le web, on apprend la mort de l'homme le plus grand du monde.
Il mesurait, tenez-vous bien, 2,57 m et il chaussait du 64. Oui, c'est impressionnant. L'Ukrainien Leonid Stadnik vient de mourir. Il avait 44 ans.
Il était jeune.
Oui, il est mort d'une hémorragie cérébrale. Le site internet de Paris Match nous propose une galerie de photos particulièrement impressionnante. On le voit dépasser tout le monde de 2 ou 3 têtes. Mais on apprend qu'il vivait sa taille comme une malédiction. « Quel péché ai-je commis ?» disait-il. « Toute ma vie, j'ai rêvé d'être comme tout le monde, simplement. » Leonid Stadnik avait en fait connu une poussée de croissance à l'âge de 12 ans après une opération au cerveau. Et sa malédiction l'a suivi jusqu'au bout. Il n'a même pas pu avoir de funérailles normales, raconte le site internet du magazine. Son corps était trop grand pour un corbillard. Il a dû être transporté à l'arrière d'un camion. Et Paris Match précise enfin que l'homme le plus grand du monde est turc désormais. Il mesure 2,51 m.
France Info, 9h22, on passe maintenant notre coup de fil à la presse régionale.
Et le vendredi, c'est avec nos confrères d'Ouest France. Jean-Bernard Cazalet, rédacteur en chef du journal du jour, est avec nous. Bonjour Jean-Bernard.
Bonjour Simon.
Alors on en parle beaucoup en ce moment, notamment sur France Info, le virus Ebola qui a fait plus de 1500 morts en Afrique de l'Ouest. Vous nous proposez ce matin le témoignage d'un infirmier mayennais qui participe à la lutte contre l'épidémie.
Oui, ma consoeur Corinne Printemps est allée à la rencontre de William Fourché, il a 62 ans. Il est infirmier anesthésiste dans un hôpital de Mayenne et il est parti il y a quelques semaines exercer comme responsable d'un poste médical dans une mine en Guinée. Quand il est arrivé, Ebola n'était pas encore là. La fièvre s'est installée et il nous raconte aujourd'hui son quotidien de lutte contre cette fièvre, avec toutes les difficultés que ça représente. Hein. Il évoque notamment les difficultés qu'il a à garder une vigilance extrême avec ses collègues de travail en permanence et, dit-il, l'obligation de se refuser à tout geste d'affection alors qu'on vit et qu'on mange ensemble à la cantine. Une situation évidemment très difficile à vivre pour lui et pour l'ensemble des malades et de ses collègues. La mine a été fermée, hein. Et il nous dit qu'en une journée, il a vécu autant de stress qu'en un mois, quand ma collègue l'a rencontré hier.
Je suis en guerre contre Ebola, c'est ce que dit cet infirmier mayennais aujourd'hui dans Ouest France. Alors un autre habitant de l'Ouest s'est illustré dans un tout autre domaine, là beaucoup, beaucoup plus léger. C'est un Rennais qui est champion du monde du jeu Super Mario Kart.
Oui, c'est un instituteur rennais, il a 30 ans, il s'appelle Florent Lecoané. En 93, pour Noël, il avait 10 ans, il a reçu comme cadeau de Noël une console Super Nintendo avec le fameux jeu Super Mario Kart. Il y a joué pendant quelques années, puis il s'est arrêté de jouer.
Ça va rappeler des souvenirs à beaucoup de nos auditeurs, à
Exactement.
Mon avis.
Exactement. Et puis, en 2005, en allant sur Internet, il a découvert l'existence d'un championnat de France de Super Mario Kart. Il s'est inscrit, il a commencé par se faire laminer, puis s'est entraîné et vient en août dernier de glaner le titre de champion du monde de Super Mario Kart Vintage, évidemment, puisque c'est le jeu
toujours
de
sur Super Nintendo.
Exactement.
Il a dû être très très énervé quand même de perdre à ce premier championnat auquel il a participé, puisque derrière il a joué non-stop jusqu'à devenir champion du monde. Bravo
Exactement.
À lui en tout cas.
Exactement.
L'événement du moment dans l'Ouest, Jean-Bernard, ce sont les Jeux équestres mondiaux qui se poursuivent. Ouais. Grand événement en Basse-Normandie.
Oui, la Basse-Normandie, c'est vraiment la très grande année pour la Basse-Normandie cette année. Après avoir accueilli le 70e anniversaire du débarquement et tous les chefs d'État au mois de juin, la Basse-Normandie accueille jusqu'au 7 septembre les Jeux équestres mondiaux. C'est un peu les Jeux olympiques du cheval. Hein. Toutes les plus grandes disciplines du cheval y sont présentes. Les meilleurs cavaliers mondiaux sont là. 500 000 personnes sont attendues entre le Mont-Saint-Michel et le Haras du Pin jusqu'au 7 septembre. Les Jeux ont commencé il y a 2 jours. Ils se poursuivent jusqu'au 7 septembre. Et à cette occasion, Ouest France organise ce week-end les premières assises du cheval à Caen. Tout le monde professionnel hippique va se retrouver à Caen pour une grande journée de réflexion sur la filière cheval. C'est plus de 70 000 personnes travaillent pour le cheval en France. Hein. Ce sont des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc à cette occasion, à la fois du sport, mais aussi de la réflexion sur cette filière économique importante dans la région.
Enjeu très important, notamment donc pour la Basse-Normandie, on l'a bien compris. Merci beaucoup Jean-Bernard Cazalet, rédacteur en chef du Journal du Jour à Ouest France. Voilà, c'était notre dernier coup de fil à la presse régionale. Un grand merci à tous les confrères qui ont été avec nous tout au long de l'été dans l'hyper-revue de presse. Je ne vais pas tous les citer, il y en a eu beaucoup. Je vais citer simplement les journaux, La Voix du Nord, Nice Matin, La Montagne, La Provence et donc Ouest France. Merci à eux.